France Inter, le 18-20.
Les mouvements de balanciers font partie de l'histoire du féminisme. Après chaque avancée, on finit par se demander si on ne va pas trop loin, demander aux grandes aînées des années 70 à qui on a parfois reproché d'émasculer l'autre moitié de la planète. Cette fois, après Weinstein, les choses se déclinent aussi de la même manière. On va trop loin, je soutiens le mouvement, mais sans doute parce que ce mouvement-là est différent puisqu'il parle aussi de droit au sens code pénal du droit. Ce qui est dénoncé, ce sont des fautes qui relèvent de la justice, des choses graves, des viols que l'on n'a jamais osé porter devant les tribunaux, des faits de harcèlement que l'on aurait préféré passer sous silence. Mais justement parce qu'on parle de droit, le discours s'embrouille et s'en mêle, et c'est peut-être toute l'ambiguïté d'ailleurs de cette affaire Hulot qui secoue à nouveau le débat. Est-ce que la prescription n'a plus de sens? Est-ce que la présomption d'innocence est bafouée? Est-ce qu'il y a une barrière à ne pas franchir? Mais comme on l'entend, ou comme on l'entend ici et là d'ailleurs, est-ce que la parole des femmes quand on parle de ministres n'est plus la même que lorsqu'on dénonce un producteur de cinéma? Tout ça commence à ressembler à un vaste brouhaha, mais au fond, quand il y a brouhaha et paroles contradictoires, ça veut dire qu'on parle, ça veut dire qu'on débat, ça veut dire qu'on s'engueule, juriste, féministe, journaliste, et vous aussi, tous concernés, tous interpellés, allons-y.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Bonsoir Ariane, c'est vous la première et soyez la bienvenue.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors effectivement, moi, c'est un commentaire qui n'est pas une question. Voilà, je suis magistrate, j'ai 47 ans et je suis magistrate depuis plus de 20 ans. Ceci pour dire une chose, c'est que pour moi, j'ai grandi dans une culture juridique qui est que le viol a toujours été un crime, toujours un fait grave, et donc ce n'est pas un sujet ni un débat à la gravité du viol en tant que tel. Par contre, la façon dont les choses sont posées actuellement dans le débat public me heurte en tant que magistrat. Parce que je trouve qu'il y a une simplification outrancière qui est faite et qui ne permet pas de rendre compte de la difficulté qu'il peut y avoir à juger ces affaires de viol ou agression sexuelle. J'ai écouté samedi dernier sur France Culture l'émission de Finkielkraut réplique. Geneviève Fraisse a affirmé qu'il y avait de nombreux faits de viol avérés qui faisaient objet de non-lieu ou qui n'étaient pas l'objet de condamnation. Et en tant que magistrat, ça me heurte parce que je ne sais pas si Madame Fraisse a déjà eu l'occasion de juger quelqu'un sur sa seule parole. Juger quelqu'un, de condamner quelqu'un sur la parole d'une personne, c'est compliqué. J'ai été juge d'instruction, j'ai instruit des dossiers dans lesquels des gens me disaient une fois blanc, une fois noir, et dans ces cas-là, on sait bien que il y a forcément une version qui est fausse, qui est un mensonge, mais elle est où, la vérité? J'ai siégé aux assises, j'ai vu des jurés pleurer parce que quelqu'un était condamné alors qu'il le croyait innocent, j'ai vu des jurés pleurer parce que quelqu'un était acquitté alors qu'il le croyait coupable. Juger n'est pas quelque chose de simple, et surtout en la matière où la parole souvent est seule. Et ce manque de nuance choque, je trouve, heurte mon sens de magistrat, où je trouve que les gens prend soin des choses, les dossiers ne sont pas traités à la va-vite et n'importe comment. La parole des femmes, elle existe comme toute parole, mais les femmes sont des êtres comme les autres, les femmes peuvent mentir aussi. Et je trouve que ça manque singulièrement de nuance actuellement dans le débat.
Eh bien, merci beaucoup Ariane pour ces remarques qui posent bien le débat qu'on a envie d'avoir ce soir et pour en discuter autour de la table au téléphone sonne ce soir. Raphaël Rémy Leleu est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole d'Oser le Féminisme. Patrice Spinozzi, vous êtes avocat, bonsoir.
Bonsoir.
Et vous avez traité d'ailleurs ce genre d'affaires à plusieurs reprises dans votre carrière. Vous allez pouvoir nous raconter ce que vous en avez tiré. Peut-être que vous allez effectivement dans la direction de ce que disait Ariane ou pas d'ailleurs. Jean-Philippe Deniau, bonsoir.
Bonsoir Fabien.
Vous êtes le chef du service enquête et justice à France Inter. Patrice Spinozzi, je voudrais commencer par vous puisque c'est une de vos consoeurs, en quelque sorte, Ariane la magistrate. En effet, oui, peut-être qu'on simplifie un peu trop le débat aujourd'hui. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aujourd'hui ou pas?
Il faut d'abord bien comprendre que ce sont des questions extrêmement compliquées. On est en train de toucher ici à des faits qui sont très graves et souvent, comme l'a rappelé Madame la magistrate, la question est de savoir qui croire. Est-ce qu'il faut croire la personne qui a été et qui se prétend la victime, ou est-ce que la présomption d'innocence doit jouer au bénéfice de celui qui est accusé? Et c'est précisément le rôle des magistrats d'apprécier la parole des uns et la parole des autres. Donc oui, ces questions sont compliquées. Oui, le travail des magistrats est extrêmement difficile en cette matière. Pour autant, il se dégage quand même un certain nombre de décisions de justice qui, au final, on peut l'espérer, font la part des choses, et on peut espérer qu'aujourd'hui, eh bien, une personne qui commet ce type d'agression est susceptible d'être poursuivie et d'être condamnée. Et à cet égard, on a bien vu, et là on entre dans le cœur de l'actualité, à quel point les différents mouvements populaires qui se sont dégagés ces derniers temps avec le mouvement MeToo, Balance ton porc, a abouti à une libération de la parole, ce qui me semble quelque chose d'absolument déterminant, et une augmentation du nombre des plaintes. Donc aujourd'hui, je pense que...
Mais pas plus facile à juger, vraisemblablement.
Non, mais déjà, si vous voulez que ça soit... Le travail des magistrats est de toutes les façons un travail très difficile, et en particulier en cette matière. Voilà. Donc, surtout quand on est dans l'hypothèse où il n'y a qu'une parole contre une autre parole et qu'il n'y a pas d'autre élément objectif.
Quand il y a doute en droit, est-ce que le doute ne
quand
profite pas toujours
doute,
à l'accusé ?
Le doute bénéficie toujours à l'accusé. C'est certain, il n'y a pas de sujet à cet égard. Après, la notion de doute, elle s'apprécie en fonction de l'intimité propre de la réflexion de chaque magistrat. Chaque magistrat est libre ou pas de considérer qu'il est tenu par le doute. Donc, si vous voulez, c'est vraiment les magistrats, c'est vraiment lorsqu'il y a un juré et un jury populaire, les jurés populaires, qui vont décider en leur âme et conscience si oui ou non le crime a été commis, si l'infraction a ou n'a pas été commise. Et il faut quand même faire confiance dans la justice. Et je trouve heureux, par rapport à ce qu'on est en train de se dire, qu'il y ait de plus en plus de faits qui puissent être dénoncés et donc qu'il puisse y avoir, le cas échéant, une vérification par la justice de délits qui, auparavant, n'auraient pas été évoqué.
Raphaël Rémy-Leleu, je vous vois prendre des notes fébrilement.
Je prends toujours beaucoup de notes, déjà parce qu'on peut aussi être féministe et juriste à la fois et que ce sont des débats qui, si on peut les avoir de manière apaisée, sont en fait passionnants, y compris du point de vue du droit, de la politique et au-delà de ça, de comment on fait pour améliorer concrètement la protection des femmes. S'il faut faire confiance en la justice, il faut aussi apporter un regard critique, puisque cette justice-là est aussi le reflet de notre propre société. Et l'un des chiffres qui est assez effrayant, c'est dans les dernières estimations, y compris celle de Virage, on estime à seulement 1% le nombre de violeurs ayant été condamnés. Donc ça, c'est quand même un hiatus.
Attendez, entre... condamnés dans ceux qui sont passés devant le tribunal, ouais. On est d'accord.
Donc ça, c'est quand même un hiatus par rapport à l'ensemble des autres crimes et délits concernant les violences sexuelles qui est très particulier et qui est le reflet d'un biais social qui va contre les femmes. Parce que certes, il faut s'attacher à se demander comment on peut croire parole contre parole, mais également qui sommes-nous mis en condition de croire. Et avec seulement 8% des femmes, on estime que seulement 8% des femmes violées déposent plainte. En fait, on nous apprend collectivement à ne pas croire les femmes, à ne même pas juger leurs affaires. Et donc ça nous place très très loin de ce que devrait être un fonctionnement judiciaire satisfaisant.
Ce que ça veut dire, c'est que quand on est parole contre parole, le doute profite donc à l'accusé, donc 9 fois sur 10 à l'homme. Et il faut des preuves pour que ça s'inverse. Alors j'entends bien que je suis en train un peu de simplifier les choses, Patrice Pinozzi, mais est-ce que ça se résume un peu à ça quand même, au final?
Non, pas complètement. D'abord parce que il y a plusieurs choses. D'abord dans les différentes infractions de violence sexuelle, il faut quand même faire une part très particulière aux infractions qui sont relatives à des mineurs. Bon. Qui représente quand même une partie significative aujourd'hui des dossiers sexuels qui sont présents devant les juridictions. Et là, même si il faut faire aussi attention à la parole des enfants, et on a vu les limites de cette parole dans le dossier évidemment d'Outreau, pour autant, il est certain que la notion de parole contre parole doit s'interpréter différemment. Après, si on glisse sur des cas entre majeurs, eh bien, évidemment, le doute doit profiter à l'accusé, mais on en revient à ce que l'on disait tout à l'heure, où est le doute ? Qui est convaincu du doute ? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, un magistrat n'aurait pas d'autre élément que la seule parole d'une victime, que pour autant, il ne pourrait pas être convaincu par cette victime. Alors, vous évoquez le fait que les femmes, aujourd'hui, aient été conditionnées à se taire. C'est certain, on voit bien qu'il y a eu une sorte de chape de plomb qui est fracturée, en tout cas, par aujourd'hui ce que l'on découvre. Eh bien, moi, je ne peux comme tout à l'heure, que me réjouir du fait qu'aujourd'hui, les femmes parlent et que la justice puisse derrière faire son ouvrage. Il faut faire confiance, je dirais, dans l'évolution et que petit à petit, aujourd'hui, la parole se libère. Et il faut faire aussi confiance dans la justice pour pouvoir juger sereinement et au mieux possible de ces infractions
mais
sexuelles.
Mais alors justement, et avant de retourner au standard, vous parliez de parole à l'instant. Est-ce que la parole, elle, a le droit d'aller plus loin que le processus judiciaire dont vous parlez ? Après tout, effectivement, quand la culpabilité n'est pas démontrée, l'innocence n'est pas démontrée non plus. Donc là où nous en sommes aujourd'hui, c'est que la parole va au-delà du prétoire. Est-ce que là, il y a un problème ou pas ?
Tout dépend comment est adressée cette parole. Il y a une différence très importante entre une personne qui va dénoncer certains faits dont elle a été victime, sans citer forcément son agresseur, et celle qui dénonce une personne en particulier. Bon. Si elle dénonce une personne en particulier, en réalité, c'est une plainte qu'elle va exprimer à son encontre, et elle va nécessairement, si ce qu'elle dit est vrai, déclencher une action, la justice va s'en saisir, et il va y avoir une enquête, il va y avoir un mécanisme judiciaire qui va se mettre en place. Et ce qui est vrai, c'est que il y a un risque à dénoncer des faits lorsque l'on porte une atteinte à l'honneur d'une personne déterminée, si ces faits ne sont pas vrais ou ne sont pas prouvés, car on s'expose à un risque de contraction, une action en diffamation ou une action en dénonciation calomnieuse. C'est vrai, mais c'est la nécessité de la justice. C'est l'équilibre judiciaire. Il faut nécessairement que les faits réels soient poursuivis et qu'une personne qui se voit elle-même mise en accusation puisse, le cas échéant, laver son honneur. On se souvient, on est en train aujourd'hui de parler évidemment du dossier de M. Hulot, mais chacun a en mémoire l'affaire Baudis qui a été la démonstration de ce qu'une rumeur pouvait alimenter véritablement une opprobre publique, alors même que en réalité il n'y avait aucun fondement à ces accusations. Donc on voit bien qu'il faut trouver cet équilibre entre la juste dénonciation et éviter que des personnes soient mises en cause de façon injustifiée.
Alors justement, l'histoire du juste milieu, vous aurez l'occasion de répondre, Raphaël Rémy-Leleu. C'est un peu la question de Frédéric. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir à tous. Oui, je ne vais pas faire avancer le jumibic, je ne vais faire que souligner le doute que tout le monde, que tous les intervenants ont souligné. Comment faire écho à une parole, disons à une dénonciation, entre pas d'écoute du tout, ou entre une écoute, trop attentive ou un petit peu trop orientée. On l'a vu les derniers temps, vous l'aviez souligné. Des exemples, quand il s'agit de Woody Allen ou de Weinstein, toutes les paroles sont acceptées sans discussion. Quand il s'agit de M. Hulot, elles ne le sont pas. Alors il y a d'un côté la justice qui fait son travail et qui le fait bien. Et de l'autre côté, il y a toute la rumeur médiatique, avec parfois des faits qui ne sont pas avérés ou qui sont mineurs. Autant l'écoute doit être attentive quand il s'agit de faits majeurs de viol, autant peut-être pour des actes mineurs, peut-être ne faudrait-il pas aller actuellement vers ce qui pourrait être une guerre des sexes et une méfiance réciproque qui serait injustifiée.
Merci beaucoup Frédéric pour votre question, vos remarques. Raphaël Rémy-Leleu, il y a deux choses dans ce que dit Frédéric à l'effet. Et puis une chose avant, est-ce que vous avez le sentiment, vous, c'est le cas d'un certain nombre de gens, qu'il y a deux poids, deux mesures, dès lors qu'on parle là pour le coup de deux ministres, Nicolas Hulot, Gérald Darmanin, et les autres cas? Est-ce qu'il se passe quelque chose de différent en ce moment?
Il y a toujours ce problème qui se pose lorsqu'on évoque la parole de femme, la parole de victime, y compris face à des personnalités publiques. C'est finalement, qu'est-ce que le bon profil d'une victime et qu'est-ce que le bon profil d'un agresseur? Et ces choses-là sont importantes à remettre sur la table également parce que ça va accompagner tout le processus judiciaire, ça va orienter à la fois le débat, mais aussi l'accompagnement de la victime, son parcours traumatique en cas de violence. Puis c'est important peut-être de rappeler que plus que de la libération de la parole, aujourd'hui, on est face à une parole qui est enfin écoutée. Et donc cette question de l'accompagnement va se poser, y compris non pas seulement parole contre parole, mais dans comment on fait pour améliorer notre système. Aussi pour que le recueil de preuves soit plus efficace, pour que les personnels qui accueillent les victimes soient mieux formés, soient plus bienveillants.
Ce qui permettra de faire monter ce fameux chiffre de 1% dont vous parliez tout à l'heure.
Qui peut aider à faire monter les chiffres, qui surtout, ne serait-ce que la réparation que peut apporter une procédure judiciaire menée à son terme, c'est aussi très important dans le parcours psychotraumatique d'une femme. Et ensuite, il y a des évolutions de la justice. Oui, c'est important d'avoir la possibilité de balancier entre la victime présumée et l'agresseur présumé, mais par exemple, la présomption d'innocence, on en a beaucoup entendu parler concernant les agresseurs. Jamais je n'ai entendu dire qu'une victime présumée était également présumée innocente de dénonciation calomnieuse. ou de diffamation. Parce que ce doute-là sur les femmes revient en permanence. Et donc, il y a quand même des évolutions qu'on peut nourrir grâce à l'expertise du psychotraumatisme, grâce à l'expertise de ce que sont les stratégies des agresseurs, y compris, par exemple, pour décaler dans le temps cette poursuite pour diffamation ou dénonciation calomnieuse, parce que la simultanéité des procédures, y compris pour des femmes qui ont peu de moyens, ou même, par exemple, pour des associations, est catastrophique du point de vue, en fait, de l'accès aux droits.
Et sur les faits, ce que disait à l'instant notre auditeur dont j'ai oublié le prénom, Frédéric, est-ce qu'on n'est pas arrivé à un point où on met sur le même plan finalement des faits de viol, des accusations de viol ou des plaintes pour viol et des harcèlements, etc. Est-ce qu'il faut les mettre sur le même plan, c'est le but de ce qui est en train de se passer en ce moment, ou est-ce qu'il faudrait mieux différencier?
Alors, sur la qualification des crimes et des délits concernant les violences sexuelles. C'est fondamental et ça fait des décennies que les choses sont mal qualifiées. Ça fait des décennies que lorsqu'on fait des enquêtes, y compris d'opinion, quand on demande à des femmes l'exemple d'un harcèlement sexuel, l'exemple qui nous revient le plus, c'est la main aux fesses dans le métro. Sauf que ça n'est pas un délit, ça n'est pas du harcèlement, c'est déjà de l'agression. Donc en fait, on part très loin dans l'autre sens. Sur qu'est-ce qui est, sur la gravité des faits, la gravité pénale des faits et pourquoi il faut les combattre. Il y a, sur un autre plan, il y a eu cette confusion un peu entretenue avec d'un côté la drague, la séduction, et de l'autre côté les violences, le harcèlement, les agressions. C'est ces plans-là qu'il est particulièrement important de différencier. On se balade pas en fait sur un seul et même axe où on commencerait par de la drague, on passerait à de la drague lourde et on finirait par du harcèlement ou du viol. Ce sont deux choses entièrement différentes. D'un côté, il y a l'amour, la séduction, le sexe. De l'autre côté, il y a les violences sexuelles qui sont véritablement différentes. Mais on part encore de très loin. Moi, j'aimais beaucoup votre introduction où on disait que dans les années 80, on accusait nos copines, nos aînés, d'avoir émasculé la moitié de l'humanité. Si les copines des années 70 avaient vraiment émasculé la moitié de l'humanité...
Le retour de bâton de Suzanne Faludi, qu'on lutte toutes les féministes.
Qui sont les violeurs aujourd'hui qui violent encore des femmes s'ils ont tous été émasculés? On n'en est pas à ça, on est loin de ça. Par contre, la guerre des sexes aujourd'hui a encore lieu, et elle a lieu contre les femmes, avec plus d'un demi-million de femmes chaque année victimes de violences sexuelles.
Gonelle nous pose cette question, elle est dans les Deux-Sèvres. Pourquoi un délai de prescription pour des affaires de viol? Patrice Pinozzi, l'avocat.
Alors, le délai de prescription...
Alors qu'on a augmenté, par ailleurs, qui est passé de 10 à 20.
Il est certain que, de toutes les façons, la prescription a mauvaise presse d'une façon générale, et en particulier dans des affaires sexuelles, et a fortiori lorsqu'elle concerne des mineurs. Donc, il faut quand même rappeler quelle était l'utilité de la prescription. C'est effectivement un principe important du droit et de la procédure pénale. La prescription, elle répond à d'abord une démarche pragmatique, c'est que c'est compliqué au bout d'un certain temps de poursuivre des gens parce qu'on manque d'éléments qui sont des éléments matériels. Et puis il y avait aussi un élément qui est un élément moral dans la prescription, c'est l'idée du pardon et le droit de la possibilité pour une personne, avec le temps passant, de ne plus se voir poursuivi par l'État. Mais la réalité pratique aujourd'hui, c'est que tout cela n'est quasiment plus audible et que le gouvernement en a parfaitement conscience, puisqu'il y a d'ores et déjà eu une réforme qui est intervenue en début d'année, qui est venue porter à 10 ans aujourd'hui la prescription de toutes les agressions sexuelles contre des mineurs, qui est venue porter à 20 ans tous les crimes sexuels qui sont susceptibles, donc le viol, d'être commis. Et on est en train de discuter aujourd'hui encore d'une nouvelle réforme qui tendrait à repousser à 30 ans les crimes sexuels, sachant que tous ces faits commencent à courir, toutes ces prescriptions ne commencent à courir qu'à partir du moment où il y a une majorité qui est acquise de la part des victimes. Donc on voit bien que, même si on n'est pas aujourd'hui dans une véritable imprescriptibilité de ce genre de délit, en particulier du viol, on est de plus en plus vers la disparition de cette notion de prescription pour ce type de délit.
Mais lorsqu'on entend, par exemple, dans l'affaire Hulot en ce moment, c'est « puisque ça a été prescrit, on n'en parle pas ». Mais en quoi le fait qu'une affaire soit prescrite, ça empêche d'en parler?
Alors,
au fond,
plusieurs choses. Si on parle un instant de l'affaire Hulot, il y a quand même un certain nombre de choses à rappeler juridiquement. D'abord, par rapport à ce que disait le précédent auditeur, quand il distinguait certains faits en disant « il y a des faits graves, il y a des faits moins graves », il faut bien comprendre que l'affaire Hulot est une affaire qui est très particulière. Et elle montre la limite, évidemment, de ce type de dénonciation, car il n'y a pas de dénonciation en réalité. Oui. L'affaire Hulot, ça n'est pas une victime qui a prétendu quelque chose. L'affaire Hulot, c'est un journal qui a décidé... de mettre en cause un ministre pour faire sensation. Et on voit bien ici comment la mécanique se retourne complètement contre d'ailleurs les femmes elles-mêmes, contre toutes les femmes qui ont dénoncé de façon légitime. Donc, on se retrouve dans cette situation où, effectivement, un journal va faire état d'une plainte qui avait fait l'objet d'une décision de non-lieu. Décision de non-lieu, et c'est important de le rappeler, qui était fondée non seulement sur la prescription, mais aussi sur l'absence de toute preuve qui était susceptible d'exister à cette époque.
Bah, je vais le lire. Tiens, les faits dénoncés, texto oui. ce que disait la suite, les faits dénoncés qui en tout état de cause n'apparaissent pas établis font l'objet à ce jour d'un classement sans suite en raison de la prescription.
Donc on voit bien, si vous voulez, là que c'est non seulement la prescription, mais aussi l'absence de preuves, l'absence de toute démonstration qui justifie la décision de classement. Et on voit bien dans ces conditions-là pourquoi on est un cran beaucoup trop loin dans l'affaire Hulot, parce que on ne protège pas une victime, on a simplement une instrumentalisation d'une information pour faire sensation en mettant en cause un ministre.
Jean-Philippe Deniaux.
Oui, je crois qu'il y a une question journalistique aussi derrière tout ça, qui ressort de cet article de Hebdo. Nous sommes là, d'une part, pour relater des faits. Bon, ça, c'est, entre guillemets, assez simple. Nous sommes là, ensuite, pour mener des enquêtes journalistiques, à distinguer des enquêtes policières ou des enquêtes de la justice. Nous sommes là pour mener des enquêtes journalistiques, c'est-à-dire apporter des faits nouveaux. Et ces faits nouveaux pourront être repris par la justice ensuite. Cet article paru sur l'affaire Hulot, qui pour moi est un très mauvais titre à la base, mais cet article paru n'apporte pas de faits nouveaux. Simplement, il relate une histoire qui s'est produite, donc avec des faits, avec une plainte, avec un classement sans suite, avec l'histoire d'une femme qui s'appelle Marie dans l'article. Le journal aurait très bien pu choisir de raconter l'histoire de Marie, et qui est une histoire réelle, qui est un vrai traumatisme, qui en subit encore les conséquences visiblement dans sa vie aujourd'hui. Mais le titre, l'hebdomadaire, a choisi de titrer l'affaire Hulot. Pour moi, ce n'est pas une affaire Hulot d'instant où on n'apporte pas d'éléments nouveaux qui pourraient aujourd'hui mettre en cause Nicolas Hulot davantage que la plainte qui a été classée sans suite il y a maintenant 10 ans.
Raphaël Rémy-Leleu, est-ce qu'elle est un peu compliquée, y compris dans le contexte, cette affaire Nicolas Hulot au final?
Cette affaire Hulot, elle est compliquée, comme toutes les affaires finalement qui sortent, y compris depuis le mouvement MeToo. Et je trouve que ça pose le doigt sur un énorme problème, qui est celui du lien entre l'investigation journalistique et le processus de soins psychotraumatiques, et encore une fois ensuite, la relation judiciaire. Par exemple, on sait qu'il y a des femmes qui ont témoigné auprès d'associations, mais également auprès de journalistes depuis le mois d'octobre, depuis l'affaire MeToo, et qui aujourd'hui sont sous terreur, sont exténuées parce qu'on leur promet qu'un article sur leur agresseur va sortir, va sortir, va sortir, et cet article ne sort pas.
Là, vous parlez pas de femmes qui dénonçaient Nicolas Hulot, vous parlez de quelqu'un d'autre?
Mais par exemple, si d'accord. Je voulais dire ça, je ne pourrais pas
d'accord,
le dire non
okay.
plus.
Non, mais très bien.
Et donc, on a aussi ce problème-là, ce sont des associations qui recueillent la parole, des associations exsangues qui n'ont pas assez de moyens, qui n'ont pas assez de femmes et d'hommes pour faire travailler les structures, pour recueillir les paroles, et qui s'exposent à la fois médiatiquement et également du point de vue juridique en ne pouvant pas commenter tout ce qu'on sait, tout ce qu'on aimerait pouvoir dire, à la fois pour réclamer l'irréprochabilité, mais aussi pour empêcher les risques de récidive. Et donc là-dessus, typiquement, il y a une évolution, à mon avis, législative à faire pour permettre aux associations de porter la parole des victimes qui n'en ont pas forcément les moyens, que ça soit du point de vue personnel, du point de vue des moyens les plus financiers, ou même du point de vue de la question de la représaille, qu'elle soit politique, médiatique. Ça fait partie des stratégies de l'agresseur pour faire taire les paroles et mettre sous pression les personnes qui savent.
Allez, on retourne au standard 01 45 24 7000 avec Gilles qui nous attend. Bonsoir Gilles.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Oui, merci de prendre ma question. Oui, une question en fait. Je suis d'accord avec libération de la parole. Enfin, je trouve que c'est un point, une évolution fondamentale. Faire confiance à la justice, très bien. Ce que je crains, quelque part, c'est l'encombrement de la justice, dont on sait qu'aujourd'hui, elle met beaucoup de temps pour traiter un certain nombre de dossiers, pour diverses raisons. on va avoir de plus en plus de dossiers qui vont être remontés. Et je dis, pendant toute cette phase d'investigation, il y a des personnes qui peuvent être, alors à juste titre, si c'est à juste titre, il n'y a pas de souci, si effectivement il y a condamnation derrière. Mais si par contre on doit dénier l'accusation qui a été portée, ce sont des personnes qui vont être complètement détruites pendant une période et toute la suite, parce que détruites vis-à-vis de leur environnement professionnel, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des amis, vis-à-vis de la société de façon générale. Que pensez-vous de ça et comment est-ce qu'on peut protéger quelque part, même s'il y a présomption d'innocence, il y a quand même une suspicion qui est portée d'emblée dès qu'il y a une accusation qui est donnée vis-à-vis de quelqu'un.
Merci beaucoup pour cette question, Gilles. Patrice Spinozzi, est-ce que la justice est débordée par un mouvement comme celui-là? Plus il y a de plaintes, plus c'est compliqué.
Je pense que ce que je pense de ce que vous dites, c'est que c'est très juste. Voilà. On est aujourd'hui face à un temps qui n'est pas le même, une différence de temporalité entre la dénonciation, et qui aujourd'hui est virale, hein, par ailleurs, hein, du fait du développement aussi des réseaux sociaux, et de l'autre, le temps de la justice qui est nécessairement plus long. Alors c'est une difficulté évidente. Un mot là-dessus quand même. Il y a deux actions principales, on les a évoquées rapidement. D'un côté la diffamation, de l'autre la dénonciation calomnieuse. La dénonciation calomnieuse, c'est l'infraction la plus grave, et elle n'est susceptible d'être engagée contre un accusateur ou une accusatrice qu'à partir du moment où il est définitivement acquis que la personne qui a été accusée a fait l'objet soit d'une décision de non-lieu, soit d'une décision de relax. La diffamation, c'est autre chose. C'est le fait d'avoir imputé à une personne un comportement qui est attentatoire à son honneur. Et ça va tout de même beaucoup plus vite. C'est-à-dire que on le voit bien, il y a des délais de prescription qui sont courts. On est dans les infractions de presse, donc il faut nécessairement agir dans les 3 mois. Et les tribunaux ont vocation à intervenir beaucoup plus rapidement. Et on voit bien d'ailleurs que c'est en général l'arme, même si en réalité les sanctions pénales sont très peu lourdes. L'enjeu, c'est de démontrer, justement, de pousser un accusateur devant un tribunal et de le forcer, le cas échéant, à prétendre que ce qu'il a dit est vrai. Et c'est le choix d'ailleurs qui a été fait il y a quelques semaines par Pierre Joxe, par exemple, qui était mis en cause et qui a fait le choix de la diffamation. Et c'est un choix qui n'est pas complètement neutre, c'est-à-dire que prendre le choix de la diffamation, c'est dire « Ok, je suis prêt à me confronter à mon accusateur devant un tribunal, et l'accusateur va pouvoir faire toute offre de preuve pour démontrer la réalité de ses propos. »
Ce que fait Nicolas Hulot d'une certaine façon, puisqu'il porte plainte contre Hebdo.
Alors, ce que fait Nicolas Hulot, avec toute la limite, encore une fois, de ce qu'on a rappelé tout à l'heure, c'est que en réalité, Hebdo a fait sensation avec les informations qu'il a mises sur la place publique, qu'il a lui-même monté en épingle. C'est effectivement critiquable. Est-ce que pour autant on a imputé à Nicolas Hulot un fait qu'il n'aurait pas commis? Ça va être plus compliqué, parce qu'en réalité, ce qui a été mis en avant par Hebdo, c'est l'existence de cette plainte. Ça pose un problème très certainement déontologique, mais est-ce que de là à penser qu'il y a une diffamation, je n'en sais rien. En revanche, ce qui est certain, si on revient par exemple sur l'exemple qui est l'exemple de Pierre Joxe, qui a été mis en cause, si effectivement cette mise en cause n'est pas justifiée, s'il n'y a aucun élément que le juge considère comme étant crédible, eh bien dans ces conditions-là, eh bien il y aura une condamnation pour diffamation et la possibilité pour cet homme de laver son honneur dans des délais qui sont relativement acceptable.
Jean-Philippe.
C'est vrai qu'on a du mal à voir la diffamation dans cet article parce qu'il se base sur des faits, encore une fois, le témoignage d'une femme, une plainte, une audition de Nicolas Hulot, un classement sans suite, tout est dit factuellement. Petit détail aussi sur la diffamation, la particularité, c'est que la seule plainte déclenche quasi systématiquement un procès. Donc on sait, quand on porte plainte en diffamation, droit de la presse, on a forcément un procès dans les mois, dans les années qui suivent.
Raphaël Rémy-Leleu, et notamment sur l'embouteillage dont on parlait au début, de votre point de vue à vous, là aussi il risque d'y avoir effectivement un souci. Vous parliez-vous de la difficulté de prendre toutes les plaintes aujourd'hui, toutes les paroles en tout cas pour les associations, et j'imagine que l'entonnoir il se resserre aussi, comme le disait Maître Spinozzi.
Ah, de toute façon, ça, les moyens de la justice, toutes les associations féministes sont pour donner plus de moyens à la justice, parce qu'on le voit nous-mêmes. Finalement, il n'y a pas de contradiction entre la volonté de protection des femmes et les principes de justice, et le fait de faire en sorte que notre justice fonctionne correctement. L'un des grands principes de la justice, c'est que pour être efficace, elle doit être rapide et sûre. Aujourd'hui, pour une femme agressée, violée, rien ne lui assure d'avoir une justice rendue, et je ne dis pas un verdict favorable, mais une justice rendue de manière rapide ou sûre. Et donc ça, oui, ça nécessite des moyens, que ça soit dans les tribunaux, que ça soit dans les greffes, que ça soit dans les commissariats, que ça soit dans les hôpitaux pour le recueil de preuves dans des unités médico-psychiatriques adaptées. Tout ça, aujourd'hui, on ne l'a pas. Et finalement, l'une des seules manières, on parlait de cette contradiction entre libération de la parole des femmes parfois et risque de diffamation ou de calomnie, l'une des seules manières qu'on a de parler librement des agressions et des agresseurs dont on aurait connaissance, c'est par exemple ce qu'a fait Isabelle Attard de manière très héroïque, en prenant la tribune à l'Assemblée nationale pour parler d'une affaire qui avait été tout bonnement étouffé. Et donc, au-delà des principes de justice, on pourrait aussi revenir sur la prescription qui a ses propres limites, y compris dans les cas de violences sexuelles. Les deux grandes limites de la prescription sont quand même les stratégies des agresseurs qui ont pour but d'isoler et de décrédibiliser les victimes, mais aussi les mécanismes psychotrauma, y compris l'amnésie suite à des violences sexuelles. Donc ça rend la question de la prescription compliquée. Mais dans tous les cas, au-delà des principes de justice, au-delà de l'organisation de notre droit et de notre police, il va falloir qu'on pense à l'organisation de notre système politique et de ce qu'on est capable de tolérer en termes d'irréprochabilité, de mépris pour les femmes et les agressions contre elles. Parce que là, quelque chose qui bafoue tous les principes de justice autant que tous les droits des femmes, c'est quand même l'Assemblée nationale qui se lève et qui applaudit Gérard Darmanin alors qu'il n'y a pas eu de jugement rendu. Alors que c'est craché à la figure d'une femme qui parle, c'est quand même délirant. Et ça, je n'ai pas vu beaucoup de grands juristes s'en émouvoir.
Et c'est pour ça que je vous posais la question au début. Est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures? Est-ce qu'il se passe des choses différentes autour de Hulot Darmanin qu'autour des cas précédents, depuis ces quatre derniers mois, on va dire?
On peut même comparer deux figures comme Weinstein et DSK. DSK, il y a eu beaucoup moins de facilité à croire la victime que Weinstein, parce que ce ne sont pas les mêmes enjeux, parce que ce ne sont pas les mêmes connaissances, les mêmes réseaux d'affinités en France. Donc c'est toujours beaucoup plus simple.
Et autre période, hein, et les choses peuvent changer d'un coup sur une période différente.
Oui, ça c'est quelque chose dont on avait peur, parce que mine de rien, DSK, on nous avait dit à l'époque, plus rien ne sera jamais comme avant. Puis finalement, il y en a eu beaucoup d'autres affaires depuis. Mais donc oui, ça change beaucoup selon le profil de l'agresseur, selon qui est en mesure de croire qui a envie de croire qui. Et ça, c'est encore un problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de principe d'écoute ou même de présentation objective de ce que serait une victime ou de ce que serait un agresseur. La moindre des choses, quand on porte une politique publique, et y compris qu'on porte une politique publique avec un gouvernement qui dit que les droits des femmes sont la priorité du quinquennat, eh bien on se met en retrait. Ne serait-ce que pouvoir gérer sereinement l'application de la politique publique dont on est responsable.
Maître Spinozzi.
Un mot quand même sur ces questions. Juridiquement, en tout cas, hein, je tiens vraiment à distinguer le cas de Nicolas Hulot de tout autre cas, car encore une fois, dans cette affaire, et c'est absolument déterminant, la victime elle-même ne porte pas plainte. Et c'est ce qui est extraordinairement choquant, c'est que en réalité, en faisant état et en médiatisant cet élément, l'existence de cette plainte, c'est
enfin,
la parole.
Elle porte plainte. Hein.
Elle a porté plainte. La plainte a été classée. Et aujourd'hui, elle ne veut plus que l'on parle de cette affaire. Et en mettant en lumière cette affaire, c'est sa parole à elle que l'on nie encore, puisqu'en réalité, ce n'est pas. On essaye d'expliquer qu'il faut faire son bien contre elle-même. Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous trouvez normal. Moi, je m'interroge, encore une fois, d'abord sur la déontologie journalistique, mais au-delà de cela, quel est l'intérêt de ce journal à mettre en avant cette affaire, alors qu'il prétend, en réalité, se faisant se battre pour des femmes, alors même qu'il nie leurs propres paroles. Donc le cas Hulot est vraiment un cas très particulier. Après, la question de savoir s'il appartient ou non au gouvernement de prendre la parole publiquement pour défendre les siens, je crois d'ailleurs que la défense à l'égard de Nicolas Hulot n'a pas été exactement la même qu'à l'égard de M. Darmanin. Et il y a eu d'ailleurs des interrogations. Que derrière, il y ait un front et que certaines personnes viennent témoigner dans le gouvernement de leur solidarité, c'est un état de fait. Je crois qu'il y a eu là, avec le cas Hulot, véritablement une volonté de marquer le coup mais à juste titre, car on est dans une hypothèse qui est parfaitement différente.
Voilà, et Gérald Darmanin, il faut le redire, on le disait dans les journaux, qui a été entendu en audition libre aujourd'hui lundi. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue Sylvie, on vous écoute.
Oui, je voulais dire que j'avais l'impression dans les médias que beaucoup d'avocats de la défense, enfin défense de présumés coupables ou ceux qui sont dénoncés comme tels, étaient beaucoup entendus, donc ils étaient beaucoup dans les journaux télévisés, etc. Et par contre, la parole des victimes, elle n'est jamais entendue puisqu'elle n'est pas défendue, généralement pas défendue par un avocat qui se met en avant. Je trouve ça anormal et au niveau de l'opinion publique, ce décalage entre un avocat qui parle pour défendre son client, la personne accusée, peut-être à tort, hein, je ne sais pas, mais je trouve ça anormal que l'on entende plus l'un que l'autre, en fait.
Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Merci beaucoup, Sylvie, pour cette question. C'est aussi votre sentiment, Raphaël Rémy-Leleu ? Est-ce qu'on entend plus la défense de l'accusé, ou présumé comme tel, que celle des femmes ?
C'est extrêmement compliqué, ça dépend des cas, ça dépend des affaires.
C'est bien de rappeler que chaque cas est vraiment, vraiment différent.
Cela dit, c'est notre responsabilité de journaliste, après, de respecter un équilibre de la parole.
Et Raphaël Rémy-Leleu, donc pour finir sur cette remarque, pardon. Non, merci Jean-Philippe. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est tout à fait juste. Allez-y.
Non, bien sûr, mais c'est là que c'est. Je trouve ça important à la fois de réussir à avoir le débat sur cette articulation entre exigences politiques et fonctionnement de la justice. Et en même temps, on voit bien que ces questions-là ne doivent pas demeurer individuelles. Je reprends aussi le témoignage de la première personne, de la magistrate. Mmh. On ne juge pas des juges. Notre problème n'est pas individuel. Notre problème, c'est sur une considération générale de la parole des femmes même, et de l'importance qu'on accorde à leur protection. Et c'est là que, autant concernant le cas Hulot et la publication par l'Hebdo, alors sur la déontologie journalistique, je vous rejoins totalement. Après, je peux comprendre, parce qu'on connaît ce genre de cas en tant qu'association à Oser le Féminisme, où des femmes qui ne veulent pas porter plainte aimeraient que nous, on donne le nom de leurs agresseurs, parce qu'elles ne se sentent pas en mesure de le faire. Et je comprends également qu'on s'interroge, et je crois que c'est une exigence qu'on doit porter, encore une fois, sur ce qu'on est en droit d'attendre de nos responsables, et y compris parce que ce sont des hommes qui sont en position de pouvoir, en position de récidiver et en position de ne jamais faire appliquer de politique d'égalité.
Merci beaucoup et merci à tous pour les nombreux appels. Merci pour ce débat fort intéressant sur lequel on n'a pas fini de revenir, et tant mieux d'ailleurs, parce que la parole, c'est aussi ça, au téléphone sonne. Merci à tous.